France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans les 14, 15 et 16 novembre dernier sur le thème « Qui tient promesse ?»
Qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse.
Aujourd'hui, 8e émission, les écritures de la promesse avec Florence Aubenas, grand reporter au Monde, et Jérôme Ferrari, écrivain.
Florence Aubenas, vous la connaissez tous. Elle est grand reporter, elle a travaillé au Matin de Paris, au Nouvel Obs, à Libération, elle est désormais au Monde. Vous connaissez ses articles sur toutes sortes de sujets, des articles de terrain, sur les commissariats, les usines en grève, les pays en guerre aussi. Vous vous souvenez de son expérience en Irak en 2005. Elle pratique un journalisme de l'immersion, de la vérité et de la sensibilité qui renoue quelque part avec... cette charnière de la littérature et du journalisme qui était très présent au XIXe siècle, cette grande tradition de l'écrivain journaliste de l'époque où on considérait comme une évidence que l'enquête sur la vérité implique non pas une mise en scène de soi, mais en tout cas une mise en jeu de son corps et de sa plume. Vous connaissez notamment le livre que Florence Aubenas a publié en 2010 aux éditions de l'Olivier, Quai de Ouistreham, où elle raconte les 6 mois qu'elle a passé dans la peau d'une chômeuse comme les autres, à Caen. Elle est devenue véritablement un personnage de fiction à ce moment-là, qui allait à Pôle emploi pour tenter de glaner quelques heures de travail, qui nouait des amitiés avec ses compagnons de galère, avec lesquels elle passait la serpillière et le balai. Plus aucune position de surplomb à ce moment-là. Tu as déclaré à ce moment, Florence, à l'époque, plus le temps passait, plus je me rapprochais du journal intime. Il y a donc cette idée que la description la plus juste de la réalité sociale n'exclut pas le récit de soi, au contraire. Et on retrouve le même va-et-vient entre enquête objective et engagement subjectif dans ton dernier livre, qui est un recueil de chroniques paru dans Le Monde. Ça s'intitule « En France » et c'est paru donc aux éditions de l'Olivier toujours. Florence, merci d'être là. Tu as donc 20 minutes pour cette intervention.
Donc pour moi, cette invitation cet après-midi a commencé par s'appeler plutôt que la promesse, la menace. Parce que j'ai eu 2 enfilés au bac. Et donc, quand Jean m'en a parlé, ma première réaction a été la panique totale. Donc voilà, je suis pas du tout quelqu'un d'abstrait, pas du tout quelqu'un qui arrive à comme ça à me dépêtrer à traiter un sujet en grand oral de manière abstraite. Donc moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était justement cette expérience que tu évoquais un peu, Jean, celle de femme de ménage. Femme de ménage, c'est le premier et le dernier des boulots quand on est une femme. Je me souviens que quand je suis arrivée à Pôle emploi, c'est exactement ce que m'a dit l'employé. Il me dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait ? Rien, soyez femme de ménage. Mais alors, comme j'ai fait un livre là-dessus, je me suis dit, vous allez vous lasser, vous en avez marre du ménage. Moi aussi, j'ai arrêté. Et donc, il y a un pendant aux femmes de ménage. Et il y a un métier pour les hommes qui est la même chose que femme de ménage pour les femmes, c'est vigile. Alors, plutôt que de passer le bac une nouvelle fois en vous parlant de la promesse, j'ai décidé que vous alliez être aujourd'hui en faire un petit jeu. Vous serez tous aujourd'hui mes rédacteurs en chef. Donc, vous m'avez envoyé en reportage, faire un reportage sur la promesse et donc les vigiles. Donc, j'ai fait un reportage, je suis allé à Lyon, à côté de Lyon, et j'ai voulu voir quelle était la vie de vigile, donc cette vie... Quand on ne sait rien faire, quand on n'a pas de bagages, c'est ce qu'on vous propose à Pôle emploi, c'est vigile. Et là, c'est les vigiles dont je vais vous parler, c'est même pas, alors ils s'en plaignent eux-mêmes, c'est même pas les vigiles avec uniforme, c'est même pas ceux qui ont les chaussures cirées et qui sont bien droits devant les magasins. C'est des vigiles tout en bas de l'échelle des vigiles, qui sont vigiles dans une salle des fêtes municipales, et qui donc garde comme ça au gré des noces, des interventions qu'il y a dans cette salle des fêtes. Ils sont devant et ils sont là. Et c'est, je vais vous raconter, alors j'y suis restée longtemps, vous allez rire. Je suis restée avec eux un peu plus de 15 jours, donc j'y suis retournée souvent, je suis allée voir comment ils travaillaient, etc., pour me rendre compte un peu de comment c'était. Et en fait, j'ai choisi de vous en raconter une soirée. C'est une soirée avec ces vigiles, devant une salle des fêtes municipales dans la région de Lyon, et les promesses qu'on leur a faites, pourquoi ils sont là, et pourquoi tout en sachant que ses promesses ne seront jamais tenues, il reste là. Fabien a tiré les chaises près de la machine à café, qui clignote comme un arbre de Noël dans l'obscurité de la salle des fêtes. La nuit est bien avancée, les noceurs sont déjà partis. Fabien est devenu vigile par l'entremise d'un cousin, gérant d'une pizzeria à Saint-Étienne, le seul de la famille à avoir, peut-être, réussi. En tout cas, le visage de Fabien, couturé par quelques bagarres et un accident de moto, lui a cette fois servi de CV. La journée, Fabien surveille aussi une résidence étudiante du côté de Lyon. Quand il a commencé, un licencié en droit y faisait sa loi, à coups de chahut et de beuverie. Ils ont à peu près le même âge, tous les deux. C'est lui ou moi, a pensé Fabien. Une après-midi, où il sermonnait l'étudiant, comme trop souvent, l'autre avançait le visage tout près du sien. « Qui es-tu pour me parler comme ça? Tu ne me fais pas peur. » Fabien s'est dit « C'est maintenant ». Il l'a poussé, pas frappé, poussé. L'étudiant est tombé dans l'escalier, lourdement. Fabien s'est précipité pour le relever. Puis il l'a poussé, de nouveau, un peu plus fort. Depuis, la résidence est calme. L'étudiant le salue poliment et le patron de la boîte de sécurité a fait une promesse à Fabien. « Si tu me donnes d'autres preuves, on te fera un vrai contrat. » Dans la salle des fêtes, Camara s'est assis à côté de Fabien, le dos contre la machine à café. Vigile lui aussi, mais plus âgé et surtout plus ancien, déjà embauché. Il est chargé de garder le trousseau de clés du site. Camara le fait sauter dans sa main avec un bruit de grelot. « Donne-le-moi, joue Fabien. » Camara le serre contre lui. Il philosophe. « Ce ne sont pas des clés, c'est ce qui nous fait manger, ma femme et moi. » Camara aussi veut raconter une histoire de promesse. Il a repéré un pavillon à 20 km de Lyon. Là-bas, on peut marcher dans la rue, tranquillement, sans se demander ce qui pourrait arriver. Ta tête est libre, tu peux penser à ce que tu veux. Dans la boîte de sécurité, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Elles sont compensées par des jours de récupération. Camara ne veut pas de temps. Le temps, c'est la monnaie des riches. Lui veut de l'argent pour le pavillon. Le patron lui a promis, « Si tout se passe bien, je te paierai les heures sup. » Et toi, à quel moment tu as compris que ceux de la boîte ne tiendraient jamais leurs promesses, lance Camara. Dès qu'ils me l'ont dit, soupire Fabien. Camara aussi. Mais alors, pourquoi on reste? Il se pousse du coude, gentiment. Fabien propose, et si on se cotisait pour s'offrir un café à la machine? Puis Camara de nouveau. Tu sais ce que j'ai entendu dire dans la boîte? L'étudiant en droit, là, que tu as poussé, il a aussi conclu une promesse secrètement. Se venger de toi. Fabien est devenu tout pâle. Il est persuadé que les seules promesses tenues sont celles qu'on conclut avec soi-même. Des questions se mettent à tourner dans sa tête. Il voudrait en bombarder Camara. Il n'ose pas, touche une de ses cicatrices, celle du menton, qu'il s'est faite en moto. C'est un tic qu'il a. Il essaye encore d'attraper les clés et Camara rit. Non, non, non. La machine à café bourdonne et gargouille. Fabien s'étire. Ce soir, avant d'arriver, il a roulé sur la nationale, des allers-retours, comme ça, juste pour rester réveillé. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas dormi? Dormi vraiment, une pleine nuit. Depuis qu'il est vigile, Fabien ne s'assoupit plus que par petites sommes, quelques heures par-ci par-là, quand il peut, au petit matin, entre le moment où il rentre de la salle des fêtes et celui où il repart pour la résidence étudiante. Parfois, il y arrive aussi en fin de journée, si la boîte n'appelle pas pour des heures supplémentaires, au club de football ou pour un tournoi de catch. L'autre jour, dans l'ascenseur de son immeuble, il a sombré, debout contre la cloison, le trou noir, quelques secondes, sans plus savoir où il était. Je deviens dingue. Cette nuit, il se dit qu'il voudrait grappiller quelques minutes, rien que pour lui, aller aux toilettes, fermer les yeux, dormir en cachette, comme d'autres se planquent pour boire. Il va au lavabo au moment où deux filles en sortent, brusquement, dans une forte odeur de coiffeur. Ce soir-là, la salle des fêtes avait été louée pour une soirée, thème, cabaret oriental. « On est danseuses du ventre, on a mis du temps pour se changer », s'excuse l'une, mais elles n'ont pas l'air gênées d'être encore là. L'autre encore sur le visage, un lourd maquillage, les lèvres surtout, ourlées d'un trait marron. C'est elle qui lance au vigile. « Vous avez du feu ?» Toutes les deux sont blondes, opulentes. Pour attraper un briquet, Camara soulève son pull rouge, sur lequel « Sécurité incendie » s'affiche sur une bande foncée. Il trouve que ça donne une touche sérieuse, même si le pull est un peu petit. Il l'a acheté dans un vide-grenier, mais évite de le dire. Les filles restent devant la porte à fumer. La nuit est trop chaude pour la saison, ça finit par porter sur les nerfs. Les clés se sont remises à danser dans les mains de Camara. « Notre service finit à 7h du matin », annonce Fabien, à qui personne n'a rien demandé. Le lendemain, la salle est louée par une église adventiste, les fidèles viennent par centaines, les murs tremblent tellement ça chante. Les vigiles ont déjà installé toutes les chaises dans la salle, histoire d'être tranquille. Quand Camara a commencé à travailler dans la société, il y a déjà quelques années, un des premiers sites était une boîte de nuit. On lui avait dit « N'hésite pas à être dur avec les gens comme toi ». Camara a l'habitude de comprendre les expressions de ce genre. Les gens comme toi, ça veut dire les gens de couleur noire. Sa femme, qui n'est pas comme lui, est persuadée qu'il a été embauché pour ça, parce qu'il est noir. Que c'était ça que voulaient les gens, un noir. Elle le lui a dit. Ils ont peur de se faire traiter de raciste en cas de problème avec certaines personnes. Certaines personnes aussi, ça veut dire noir. Le métier dégoûtait Camara, refoulait des gamins qui avaient fait 50 km pour passer une soirée. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Quand on ne sait rien faire de spécial, on peut essayer vigile, lui avait précisé une assistante de la boîte. Et si votre épouse veut être femme de ménage, je peux lui trouver des contacts. Devant la salle des fêtes, Fabien lança la cantonade, mais surtout aux deux danseuses du ventre. Avant, à 7h, j'étais au casino. Il laisse un silence. Je vous ai invité toutes les deux. Une fille pouf et Fabien se dit qu'il n'a même pas assez de monnaie pour leur offrir un café à la machine. Parfois, Fabien se souvient du bruit des machines à sous, il en était dingue. C'est vieux, l'époque des conneries. Il a promis à son cousin que tout ça c'était fini. S'il est sérieux, si la boîte l'embauche, s'il s'accroche encore quelque temps, le cousin pourrait le prendre à la pizzeria. Et pourquoi pas l'associer carrément ? Le cousin lui a promis, enfin pas tout à fait, presque. Pour Fabien, c'est ça la vraie promesse, mais il n'a pas voulu le dire, ça ferait prétentieux. Il meurt d'envie de demander à Camara des détails sur l'étudiant en droit, celui qui veut se venger. Il se tourne plutôt vers les filles. « Vous êtes bien blonde pour des danseuses du ventre. » Elle rit, Camara aussi. On dirait que la nuit est de plus en plus chaude, ou alors c'est le sommeil qui fait piquer les yeux et tout le corps. Les clés se remettent à grelotter, et brusquement, Fabien se jette sur Camara pour les attraper. L'autre a déjà reculé, les vigiles se bousculent, trébuchent, les clés tombent dans le caniveau, on les entend disparaître, rebondissant contre la pierre, pour atterrir quelque part, profond, dans un bruit d'eau. Fabien s'est mis à quatre pattes, le nez sur la grille, mais tout le monde sait qu'il n'arrivera à rien. « Qu'est-ce que tu proposes de faire ?» dit Camara. Il se contient pour ne pas exploser, ça se voit. Le film de la catastrophe tourne à toute vitesse dans ses yeux. Il y a bien un autre jeu de clés à la mairie, mais il va être 4 heures du matin et demain c'est dimanche. Alors, il n'y aura pas d'autre solution que de prévenir la boîte de vigile et ce sera le début des problèmes. Camara se souvient de son embauche. À l'époque, il se relayait avec un copain depuis des mois pour surveiller les annonces dans les boîtes d'intérim et à Pôle emploi. Ce jour-là, il était 17 heures. Le copain a appelé. Il y a des places pour faire vigile, magne-toi, ils viennent de m'inscrire au test. C'était pas un poste, bien sûr, une formation, mais déjà une chance énorme. Camara a planté les enfants qui rentraient de l'école. Quand il est arrivé à Pôle emploi, essoufflé, ils l'ont refusé. L'agence était en train de fermer, Camara a supplié. « Vous venez d'accepter mon copain qui n'a même pas une voiture. Je suis potable, je suis disponible, je manque de quoi ?» Il s'est allongé par terre en refusant de partir. On a fini par l'inscrire. Fabien est allé chercher une trousse à outils et fait crisser le cric contre la grille du caniveau. Une des danseuses a allumé une autre cigarette. La grille ne bouge toujours pas. « Éclairez-moi, merde !» dit Fabien, et les trois autres l'entourent avec la lumière de leur téléphone portable. Sans savoir pourquoi, ça rassure Fabien de voir ses filles qui restent là, avec eux, comme si elles étaient les seuls témoins de l'autre monde, le monde normal, qu'on devine tout autour, un chien qui aboie au loin ou le moteur d'un scooter. Camara respire un peu plus fort. Il se souvient de la longue route pour arriver jusqu'à l'embauche, les tests finalement réussis, puis la formation, les missions pour une heure, pour une journée, des CDD qui s'enchaînent pendant presque 2 ans dans des boîtes de nuit ou des centres commerciaux, le chaos des horaires, les gars qui défilent, disparaissant les uns après les autres, sans qu'on sache jamais pourquoi. Il était devenu insupportable à la maison. Ça démarrait pour un rien. Un soir de Noël, il avait giflé son fils qui refusait de goûter au foie gras, acheté avec un de ses premiers bouts de paix. « Je te préfère encore chômeur », avait dit sa femme. Il doit être au moins 5 heures du matin, et Fabien donne des coups sur la grille de plus en plus fort. Il finit par demander, comme s'il ne pensait qu'à ça depuis le début, « Qu'est-ce qu'il a dit sur moi, l'étudiant en droit ? C'est quoi sa vengeance ?» Camara sent le stress qui remonte, et, dans sa bouche, un sale goût de café et de plastique. Quand Fabien est arrivé, au sein de l'équipe de la salle des fêtes, Camara entendait les types de la boîte lui dire les mêmes choses que ceux dont on le berçait à ses débuts, les mêmes promesses, les mêmes « si tout se passe bien, si tout se passe bien ». En ce moment précis, il déteste Fabien. « Et toi, tu viens nous foutre dans la merde jusqu'au cou et tu ne penses qu'à cet étudiant ?» Les deux danseuses se partagent la dernière cigarette. L'une s'est assise par terre, la plus maquillée. Et si elle faisait partie de la brigade volante de contrôle ? Camara les fixe maintenant. Il a déjà entendu parler de ce genre de surveillance dans la boîte. Des gens déguisés qui viennent contrôler les sites à l'improviste. Une assistante de la boîte l'a mis en garde. Elle l'aime bien, Camara le sent. Elle l'avait attiré à part un jour. « Je vais m'occuper de ton dossier », elle avait dit. Ici, tout le monde sait ce que ça signifie. L'assistante a le pouvoir de signaler au boss quelqu'un de potentiellement embauchable. Le gros lot, très très rare. Camara était excité. Il ne savait pas s'il devait y croire. L'assistante lui avait fait promettre de ne rien dire à personne. Il a hésité, puis décidé de jouer le jeu. Chacun sa merde, chacun sa place. Ses collègues l'ont appris, évidemment. Il y avait eu une bagarre. Plus personne ne lui parle dans la boîte maintenant. Il a été muté ici, à cette place peinard de la salle des fêtes, avec la menace, quand même, de devoir faire attention. Au prochain problème, dehors. en même temps que les heures supplémentaires, c'est l'autre promesse que lui a fait la boîte. Dehors. Mais celle-là, Camara a vite d'en parler, surtout à Fabien. Et s'il ne voulait plus lui obéir, s'il le savait. Camara n'arrive plus à détacher les yeux des filles. La plus maquillée se lève. Elle tire sur son blouson. Elle sent qu'elle doit dire quelque chose sans trop savoir quoi. En fait, j'ai fait des études de couvreur. J'étais la seule fille dans une classe de garçons. Les profs m'avaient dit, c'est bien, les femmes doivent innover. Tu seras la première. Tu auras tout le temps du boulot, parce que couvreur, personne ne veut le faire. J'étais la chouchou. On ne m'embauchait nulle part, on me répétait partout, on ne prend pas les filles. Je me suis reclassée comme j'ai pu. Fabien s'est assis à côté de la bouche d'égout, bras ballants, comme s'il avait lâché affaire. Alors Camara cherche quelque chose qui pourrait lui faire mal, vraiment mal. Le coup de poing, trop risqué, surtout avec ses filles bizarres, peut-être contrôleuses. Alors il affûte des mots. Tu sais, l'étudiant, il a dit qu'il allait venir se venger, ici même, ce soir. Fabien s'est relevé d'un coup. Il rentre dans la salle des fêtes, cherche une barre de fer, quelque chose, soudain fou. On entend un remue-ménage, puis sa voix qui tremble de fatigue et d'énervement. « Camara, viens m'aider à faire une barricade avec les chaises. » Dehors, les filles se sont figées. Camara aussi, qui crie sans bouger. « Déconne pas, Fabien. Le prêtre ne va pas tarder à arriver. » Des bruits encore plus forts lui répondent. Camara veut rentrer, mais une voiture est en train de s'approcher. Elle passe devant la salle des fêtes, continue, s'arrête 10 mètres plus loin. Revient en marche arrière, très doucement. Le temps semble s'être suspendu. L'auto, un 4x4, s'arrête pile devant la porte. Fabien est sorti sur le seuil, sa gueule encore plus de travers, le cric à nouveau dans la main, mais brandi cette fois. Il n'a rien trouvé d'autre. « Bonjour », dit le conducteur. Et quand il se penche, on voit dans l'ombre, un autre passager à côté de lui. Camara et les filles essayent de prendre l'air détaché, mais aucun ne court le risque de répondre. Il s'est mis à pleuvoir, des gouttes fines, presque imperceptibles. « Contrôle surprise des sites », poursuit le conducteur. « Qui est le responsable ici ? Tout va bien ?» Camara s'avance, un pas de condamné à mort. Il y a eu un problème avec les clés. L'autre éteint le moteur, la portière claque. Le passager a saisi son portable. « Je préviens quelqu'un ?» Camara a pris sa respiration. Il n'a aucune idée de ce qu'il va dire. Il sent derrière lui l'ombre de Fabien et son cric. Il répète faiblement « Qui est là ? Qui est là ?» Une des deux danseuses du ventre l'interrompt, celle qui est trop maquillée. « Messieurs, c'est ma faute. Je leur ai piqué les clés et je les ai balancées dans le caniveau, sans le faire exprès. Je ne sais pas si ce qui m'a pris, je voulais juste jouer. » Sous la pluie, la chaussée brille d'un éclat marron. C'est fini.
Je me tourne donc maintenant vers Jérôme Ferrari. En 2012, quand Jérôme Ferrari a publié son livre « Le sermon sur la chute de Rome », ça a été vraiment notre grand enthousiasme de cette rentrée-là. Et donc on lui avait consacré 2 pages avec une rencontre, etc. Et puis quelques semaines après, quand il a obtenu le prix Goncourt pour ce livre, je devrais pas le dire publiquement, mais vraiment il y a eu un espèce de spasme enfantin dans toute l'équipe du Monde des Livres. On était comme des enfants qui avaient appris une très très bonne nouvelle.
Aussi.
On était très très contents. On était d'autant plus heureux que quelque part ce Goncourt venait consacrer une forme de lutte contre la bêtise, qui est aussi une forme de combat que le Forum Philo mène depuis maintenant 25 ans, pas toujours avec succès, puisque la lutte contre la bêtise, au sens bernanosien, et c'est quelqu'un qui est très présent souterrainement dans votre œuvre, et Bernanos parlait de la bêtise pas du tout comme de l'ignorance ou de la sottise, mais comme une forme de perversion de la conscience, une façon de se défiler ou de ramper, un refus de faire face, une forme de haine de la liberté. Voilà ce qu'était la bêtise pour Bernanos. Pas la sottise, mais une perversion de la conscience. Et cette lutte, ce face-à-face, comme ça, cette lutte à mort entre l'esprit et la bêtise traverse toute votre œuvre, Jérôme Ferrari, dans le sermon sur la chute de Rome, qui raconte l'histoire, donc qui est paru chez Actes Sud, et qui raconte l'histoire de 2 jeunes garçons qui fondent un bar en Corse. Cette lutte se trouve orchestrée avec beaucoup de souffle, beaucoup d'humour, à la manière des contes voltairiens ou des chansons de Brel. Et ce livre, comme tous vos livres, je voudrais citer aussi Où j'ai laissé mon âme, qui est paru en 2010, toujours chez Actes Sud. Ce livre-là a donc une portée littéraire, une portée spirituelle aussi, qui est toujours très présente chez vous, une portée philosophique à sa manière. Vous êtes d'ailleurs professeur de philosophie, mais vous refusez de vous dire philosophe et vous préférez vous en remettre à la littérature. C'est dans la littérature que vous placez votre confiance et votre espoir. On vous a parfois reproché le pessimisme qui imprègne vos textes, mais ce pessimisme se déploie à l'horizon d'une promesse de la littérature, et qui est, dites-vous, le meilleur antidote contre la bêtise, comme chez Bernanos, dirais-je. Et chez vous, la promesse de l'avenir est une forme de désespoir surmonté. Merci.
J'ai appelé mon intervention une promesse de bonheur, et il y sera question de physique quantique. Quand j'ai cherché mon intervention, j'ai d'abord eu un réflexe assez scolaire, assez de prof de philo. J'ai pensé au rôle de la promesse dans la morale de Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Et puis ça m'a renvoyé de fil en aiguille comme ça à un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de Nietzsche, dans lequel justement il se moque beaucoup de la définition que Kant donne de la beauté et la compare à celle que donne Stendhal, hein, qu'il appelle une fois une promesse de bonheur. Et je me suis dit, ça y est, j'ai mon sujet. Et vous allez comprendre dans quelques secondes le rapport avec la physique quantique, du moins, j'espère. Alors, l'idée qui me plaisait beaucoup là-dessus, c'est que c'est l'idée que la beauté promet quelque chose, qu'elle laisse voir quelque chose. Ici, la possibilité du bonheur, le fait qu'il est possible d'avoir foi dans son existence. C'est donc l'idée que le rapport à la beauté est quelque chose qui relève de la foi. Et comme, quand on s'intéresse beaucoup à quelque chose et qu'on y travaille énormément, il se trouve miraculeusement qu'on y est ramené par tous les chemins de traverse, ça m'a vraiment fait penser, puisque j'étais en train de finir un roman sur Werner Heisenberg, à l'importance de cette relation à la foi dans la beauté, dans la pratique scientifique et à la signification tragique de cette foi dans l'histoire de la physique au XXe siècle. Et c'est là pour moi quel rapport. Je suis pas certain qu'on souligne suffisamment à quel point l'aspect esthétique, c'est-à-dire la relation à la beauté, joue un rôle majeur dans des disciplines scientifiques, en mathématiques et aussi en physique. Est tellement importante qu'elle en devient presque un critère de vérité. Elle garantit que ce qu'on est en train de voir est vrai. Et elle garantit aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'on est sur la voie du bien. La chose curieuse, c'est que dans la physique atomique du XXe siècle, la référence pertinente n'est pas, à mon sens, Épicure, ou la philosophie matérialiste comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt Platon avec ce triptyque qu'on reconnaît là entre le vrai, le beau et le bien. Alors la question qu'on pourrait poser et que je propose d'examiner à travers l'histoire de la physique, c'est de savoir si la beauté tient ou pas les promesses qu'elle fait. Alors, plutôt que de le problématiser d'une manière théorique, j'ai préféré vous raconter trois épisodes tirés de la vie de Werner Heisenberg, hein, l'un qui se passe en 1920, l'autre en 1925 et le dernier en 1953. Donc en 1920, Werner Heisenberg a 18 ans, il est à Munich, où viennent d'avoir lieu des troubles considérables avec la République des Conseils de Bavière, et il est convié à une espèce d'immense réunion de jeunesse dans la cour du château de Prun en août, et là il assiste à des discussions extrêmement polémiques et engagées sur les incertitudes de l'avenir. Et il dit que les tensions qu'il ressent deviennent presque douloureuses et désespérantes. Et puis, à la fin des discussions, un garçon sort un violon, monte sur les remparts du château et joue la chaconne en ré mineur de la partita pour violoncelle de Bach. Et là, Heisenberg écrit que, en entendant la musique, il pensait qu'il entrevoyait des liens avec ce qu'il appelle un ordre central et qu'il reprenait sa foi en l'avenir et qu'il espérait que toutes ces énergies éparpillées pourraient se réunir. Et vous avez donc entendu que le vocabulaire employé, comme très souvent, est quasiment un vocabulaire mystique. Et comment la perception de la beauté donne immédiatement la foi dans l'existence de quelque chose de supérieur et de transcendant qui ordonne l'expérience humaine et qui donne de l'espoir. Le deuxième épisode se passe en 1925 sur une petite île de la mer du Nord, à Helgoland. Werner Heisenberg vient d'avoir, c'est au printemps, il vient d'avoir des allergies terribles et il est obligé de partir sur cette île parce que il n'y a pas de pollen et que il est tranquille pour travailler. Et alors que à cette époque, la physique quantique est en pleine construction, que le monde de l'atome est plein de contradictions et présente un spectacle vraiment désespérant. Une nuit, en faisant des calculs, il entrevoit des connexions. C'est un des plus beaux textes que je connais sur la psychologie de la découverte scientifique, si vous voulez. Et le texte en question, vous le trouvez dans l'autobiographie de Heisenberg, qui s'appelle « La partie et le tout » et qui est en chant Flammarion, je crois. Et donc il est en train de faire des calculs, et puis là tout ce qui était désordonné à un moment s'ordonne, et il invente cette nuit-là la mécanique quantique dans sa première forme. Et là encore, il fait part d'une forme d'expérience mystique qui l'empêche de dormir. Il dit qu'il est saisi de vertige, dit-il, devant toute cette beauté qui restait à découvrir. Le troisième épisode nous amène en 1953 à Munich, au cours d'une conférence. Alors, il se trouve que Heisenberg a tenu cette conférence qui s'appelle « L'image de la nature dans la science contemporaine » la veille de la conférence de Heidegger sur la question de la technique. Et Heisenberg est du coup cité quelques fois dans le texte de Heidegger. Alors, là, on est frappé avec les années qui passent de la tonalité nettement plus pessimiste du discours de Heisenberg. Dans cette très belle conférence, on peut retenir deux choses. Heisenberg déplore que dans le monde contemporain, l'homme ne rencontre plus que lui-même. Heidegger lui répondra le lendemain ceci, en lui disant qu'il avait raison de dire que l'homme ne rencontrait plus que lui-même, ce qui signifiait finalement qu'il ne se rencontrait même plus lui-même, qu'il ne rencontrait plus rien du tout. Donc, ça insiste sur la perte et la désorientation. Et puis surtout, il y a cette phrase qui m'a immédiatement arrêté, moi, parce qu'elle est assez, sans doute pessimiste, mais surtout parfaitement vraie. Et il parle du développement de la technique qu'a permis la science. Il parle de la technique non pas comme d'un processus guidé par la volonté humaine, mais comme un processus organique qui se développe selon ses lois propres et sur lequel, bien évidemment, les hommes qui l'ont initié n'ont pas de pouvoir et n'en ont jamais eu. L'homme est réduit à l'état d'exécutant dans un processus qui le dépasse complètement. Et c'est donc un texte assez plein de désillusions, pas sombre, parce que Heisenberg a quand même un côté résolument optimiste. Alors, que s'est-il passé? Alors, à mon sens, il s'est passé une chose très simple. Il s'est passé que pendant toutes ces années, les physiciens ont écouté bien trop attentivement la promesse de la beauté. Et ce qu'ils ont eu, ce n'est pas le bien et le vrai, mais le péché. En regardant cette époque, on ne peut être que frappé par le gouffre vraiment abyssal qu'il y a entre la nature de la motivation des physiciens du début du XXe siècle, qui sont vraiment tournés vers une connaissance qui est purement théorique, où ils considèrent quasiment toute recherche d'application technique comme ignoble, où la politique leur paraît vraiment indigne du plus petit soupçon d'intérêt. Donc le gouffre entre ces motivations-là et ce qui s'est réellement passé, et ce qui vient juste de se passer dans les années 50, c'est-à-dire la mise au point de la bombe atomique à partir des progrès de la physique en 1945. On pourrait dire évidemment que le lien entre la science et la technique en 45 est un peu le même qu'en 14, et que aussi les progrès techniques ont permis de rendre la guerre plus efficace et plus cruelle en 1914, mais il y a une différence énorme à mon sens, c'est que la bombe est créée à partir d'un domaine de la physique qui est considéré comme étant d'une abstraction telle que pendant des années, personne ne pense une seconde qu'on peut en tirer la moindre application technique, et qui est menée donc par des gens, spécialement par Heisenberg ou Niels Bohr ou Paul Dirac, qui sont vraiment des théoriciens purs et des esthètes. Alors, je peux juste rappeler brièvement la manière dont ça s'est... Donc s'est passée l'histoire de la bombe. Dans les années 30, dans le cadre de de recherche qui était vraiment purement théorique, de recherche fondamentale. On se demandait ce qui se passait quand on bombarde de l'uranium avec des neutrons. Fermi venait d'avoir le prix Nobel en 36, en 37, parce qu'il avait supposé que ce bombardement créait des nouveaux éléments atomiques lourds. Donc c'est une histoire assez rare de prix Nobel attribué pour une erreur, hein. Et Otto Hahn, qui était chimiste, a repris le problème à zéro. Et il s'est rendu compte, en analysant chimiquement les éléments qui étaient en présence, qu'il n'y avait pas du tout de nouvel élément qui était créé, qu'il n'y avait pas d'éléments plus lourds que l'uranium créé, mais qu'il y avait du barium, c'est-à-dire des éléments plus légers. Ils en ont tiré la conclusion que ce qui se passait, c'est qu'un neutron cassait le noyau d'un atome d'uranium et le transformer en deux atomes de barium. Ils ont immédiatement vu. 1938, c'est une date fâcheuse, hein, quand même, hein, pour découvrir ça. Ils ont immédiatement vu que le processus dégageait de l'énergie et évidemment, ils se sont dit, tiens, si chaque atome libère plusieurs neutrons, eh bien, on peut engager une réaction en chaîne. Et puis évidemment, le début de la guerre a mis fin à toute la collaboration entre les scientifiques du monde entier. En 1945, au début du mois d'août, Heisenberg se trouve avec 9 autres physiciens allemands en Angleterre, au secret, dans un cottage qui s'appelle Farm Hall, parce que les Américains les ont enlevés en Allemagne et voulaient savoir où en étaient les Allemands sur la recherche atomique. Et ils les ont maintenus au secret pendant 6 mois dans ce cottage en truffant l'endroit de micro. Et parmi ces 10 savants, il y a Heisenberg et il y a Otto Hahn, qui est donc l'inventeur de la fission atomique. Et le soir du 6 août, le commandant britannique qui s'occupe d'eux prend Otto Hahn à part et lui annonce qu'une bombe atomique vient d'être lancée sur Hiroshima. Et il note dans son rapport qu'il voit Otto Hahn se briser, qu'il lui dit qu'il avait déjà pensé à se suicider quand il avait compris ce qu'on pouvait faire, et qu'il est dans un état vraiment lamentable, si bien que notre officier britannique est obligé de le réconforter à grand renfort de gin. Donc Heisenberg se sent vraiment excessivement mal et tout le monde a peur qu'il attente à ses jours et les gens ne vont se coucher que quand ils sont sûrs qu'il est endormi et calmé. Un peu plus tard, Heisenberg discute avec son ami Carl Friedrich von Weizsäcker et lui dit qu'il comprend pas très bien pourquoi Hahn se sent tellement coupable, parce que ce qui vient de se passer, dans le processus qui vient d'avoir lieu, Hahn ne joue aucun rôle éminent et qu'une invention de ce type est une œuvre collective. Si bien que il n'est pas plus responsable que tous les gens qui ont travaillé sur la physique atomique et que, tout bien réfléchi, il n'est pas non plus beaucoup plus responsable que Newton, par exemple. Et que c'est toute l'histoire de la pensée scientifique occidentale qui est engagée dans cette aventure-là. Du coup, si on devait calculer les choses d'un point de vue purement juridique, le degré de responsabilité qui reste à chaque individu, il est à peu près égal à zéro, tellement cette responsabilité s'est diluée. Mais je ne crois pas que la remarque de Heisenberg ait pour but de se dédouaner de cette responsabilité, parce que on peut supposer que si la responsabilité est tellement relative qu'elle en devient infinitésimale. Par contre, la culpabilité, chaque personne qui a participé à cette aventure-là la porte de manière totale et absolue. Une responsabilité nulle et une culpabilité absolue, ça me paraît être une bonne définition du péché. Et du coup, ça m'amène à comparer un peu cette analyse de Heisenberg avec les deux phrases qui sont certainement les plus célèbres de Robert Oppenheimer à la fin des années 40. Alors le problème avec Oppenheimer, c'est qu'il a une langue qui est extrêmement poétique et extrêmement précise, mais qui est tellement poétique qu'on en oublie souvent à quel point elle est précise. Et donc les deux phrases d'Oppenheimer, tout le monde doit les avoir entendues au moins une fois, et même trop, tellement elles sont galvaudées. La première fois, il raconte, il répond à une question pour savoir quand l'essai de la bombe atomique Trinity a marché, ce qu'il avait pensé. Donc il dit certains riaient, certains pleuraient, la plupart ne disaient rien. Et moi, j'ai repensé aux écritures sacré hindou, au moment où, où Vishnu essaye de redonner du courage au prince et lui apparaît sous sa forme de dieu aux droits multiples et lui dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Et Oppenheimer dit, ça fera dans 10 ans, je pense qu'on a tous à peu près pensé ça, j'ai les plus gros doutes sur la dernière partie, je doute vraiment que tout le monde ait pensé ça, mais lui oui, parce qu'il était très féru de mystique indienne. Et puis la deuxième phrase très connue d'Oppenheimer est la suivante, il dit, elle date de 1948, et il dit, dans un certain sens brutal, que nulle exagération et nul trait d'humour ne pourront jamais complètement abolir, les physiciens ont connu le péché, et c'est une connaissance dont ils ne pourront pas être dépossédés. C'est une très belle phrase, mais comme je vous l'ai dit, elle est précise. Et dans ces deux phrases, on a deux choses. On a d'abord, avec la référence à Vishnu, le sentiment étrange qu'ont les hommes quand ils se rendent compte qu'ils sont devenus des dieux. Et dans la deuxième partie de la phrase, on a cette histoire de péché qui est attribué aux physiciens. Il dit les physiciens. Il ne parle pas des gens qui ont, il parle pas des gens qui ont participé au projet Manhattan, mais il parle des physiciens en tant que physiciens. Et lui aussi, il parle de péché qui est pas de responsabilité, de quelque chose de bien plus fondamental que la responsabilité. Et ces deux phrases disent deux choses qui semblent opposées mais qui sont complémentaires, qui seraient pour moi: d'une part, nous sommes devenus des dieux, et d'autre part, nous sommes perdus. Nous sommes devenus des pécheurs. Est-ce que la promesse de la beauté n'a pas été tenue? Alors je crois que le pire, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'elle n'a pas été tenue. Le pire, c'est qu'arrive une tragédie, alors même qu'une promesse a été tenue. Ils voulaient la connaissance, ils ont la connaissance. Et je ne peux pas ne pas penser à la référence majeure judéo-chrétienne en matière de péché, qui est bien sûr cette fâcheuse histoire de fruits défendus et le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le serpent, lui aussi, il tient ses promesses. C'est Dieu qui ment. Dieu dit « Ne mangez pas de l'arbre, du fruit de l'arbre, parce que sinon vous mourrez ». Et le serpent dit à Ève, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas, et vos yeux seront décilés, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et il ne ment pas. Il ne dit pas tout. Il ne dit pas qu'il va tenir ce qu'il promet, mais que la signification de ce qu'il promet, c'est précisément le péché. Et je suis à peu près certain qu'avant la malédiction divine qui le condamne à ramper dans la poussière, le serpent devait être très beau. Merci.
Durant le débat qui va suivre, animé par Jean Birnbaum, les spectateurs posent des questions à Florence Aubenas et à Jérôme Ferrari, mais également à Gauze, écrivain, Véronique Ovaldé, écrivain, et Marie-Gilles, spécialiste des études littéraires, qui était intervenue hier autour du même thème.
C'est d'ordre général sur le lien entre la promesse et l'espoir, et le lien entre la promesse qui fait supporter l'insupportable. Et je pense également au témoignage que Florence Aubenas a pu faire dans ses écrits ou dans ses reportages, et aussi à Gauze. Donc, quel lien vous faites justement entre la promesse d'un avenir meilleur, et moi je pense, puisque je connais bien le monde de l'intérim, c'est-à-dire de toujours promettre que si on accepte cette mission, on va aboutir à une autre mission, à un autre contrat, peut-être le CDD, peut-être le sacré Graal du CDI. Quel lien vous faites entre l'espoir et l'insupportable?
Gauze, peut-être, parce que ce lien entre promesse et espoir, vous l'avez établi dans votre intervention.
Ouais, mais ça, c'est... Je sais pas comment te répondre, mais j'ai envie de parler d'Heisenberg, de physique quantique, pour te répondre. En fait, c'est que ce qui fait qu'on vit, ce n'est ni le début ni la fin. En fait, c'est l'état transitionnel d'énergie dans lequel on est pour passer d'une couche inférieure énergétique à une autre. Je le fais bien, hein, le prof de physique là. Et le moteur est dedans en fait. Le truc est dans. C'est vraiment pas l'état final qui compte. Encore moins l'état de départ. On dit à Abidjan, on dit c'est dû, mais on est dedans. Et en fait, ce qui fait qu'on est dedans, c'est justement cette idée-là, ce moteur-là. Peu importe en fait finalement, en réalité, que la promesse soit tenue ou pas. Parce que ce que tu vis, c'est justement c'est qui est intéressant, c'est ce rêve que tu as, c'est ça qui donne le sens à la transition que tu vas faire. Donc de sorte que quand tu te retrouves, en général même souvent on est déçu en fait, même quand ça se passe bien, quand on a les papiers par exemple, tout ça pour ça finalement, mais par contre pendant 10 ans ou pendant tout le temps que tu cherchais le papier, ça c'était le moteur et c'était bien en fait. Et c'est pour ça qu'on est dans cette espèce de recherche perpétuelle de la promesse suivante en fait, et c'est ça qui fait l'état de, enfin ce qui est important finalement, donc comme en mécanique quantique, comme dans l'incertitude d'Heisenberg, c'est l'état transitionnel, c'est la transition qui fait le truc, c'est pas l'état final qui compte. Voilà, j'ai fait mon intello là, j'aime bien ça.
Florence Omnaz, parce que la question s'adressait aussi à toi, est-ce que tu veux faire ton intello une seconde?
Non, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire c'est aussi assez frappant. J'ai beaucoup travaillé en prison et beaucoup de gens attendent la sortie de la prison, le moment de la libération. Ils disaient quand je serai libre, je ferai ça, et quand je serai libre, je ferai ça. Et il n'est pas rare, ça n'est évidemment pas toujours le cas, mais il n'est pas rare que une fois dehors, les gens disent ah c'était comme ça et ce n'est pas si bien que ce que j'attendais. Parce que c'est vrai que ce qu'il y a de particulier dans l'intérim, surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'il y a des états comme la prison où, en effet, à un moment, on est libéré. Donc on peut voir la différence. Mais dans l'intérim aujourd'hui, on peut passer une vie d'intérimaire. On peut passer une vie où on va attendre en permanence le CDD, le CDI, etc. Donc c'est assez frappant avec les gens de 18 à 25 ans qui aujourd'hui n'ont plus facilement de CDI, c'est-à-dire que où ce CDI qui était pour nous tous, j'allais dire le Graal, voire la normalité, hein, on avait un CDI, c'était ça l'emploi en vrai, l'emploi en dur, et le CDD n'était qu'une petite étape et ça allait s'arranger. Or maintenant, ça s'arrange de moins en moins, le CDI est de plus en plus rare, et donc on est dans cette phase générale transitionnelle de société. Où, en fait, ce que vous dites sur cette promesse de quelque chose va devenir la normalité. Et donc, ce CDI qui était normal et qui était la chose vers laquelle on tendait, elle-même est en train de se diluer. Donc, vous savez, il y avait, dans les années 70, il y avait 5% de précaires en France. Et il y en a plus de 30% aujourd'hui. Donc, c'est quand même un nombre important. Et donc, je fais mon petit couplet féministe, pas intello, mais féministe. Donc, 80% sont des femmes quand même. C'est ça qui va être la différence, c'est-à-dire que de plus en plus, la promesse ne va plus être une promesse en réalité. Et ça va être un état réel, c'est-à-dire que ce qui va au bout, c'est un autre CDD, ce sera ça, un cercle sans fin.
Oui, Jérôme Ferrari, je me posais la question à propos du rapport de la beauté et de la science. Pour vous, la beauté qu'il y a dans la science, c'est dans la découverte, ou c'est enfin dans la contemplation de l'unité, comme de l'atome du monde?
Alors, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de manières d'aborder la science. Cela dit, au moins pour les gens que j'ai étudiés, la relation esthétique me paraît primordiale. Et il me semble que la beauté est décrite de deux manières différentes. D'abord, effectivement, comme le renvoie à une unité transcendante, indicible, qui rejoint un peu le mysticisme, qui est indicible dans le langage courant et qui est en quelque sorte même pas dévoilé adéquatement dans le langage mathématique. Le langage mathématique étant déjà une sorte de chute par rapport au pressentiment de cette unité. Dans le premier exemple que chez Heisenberg, c'est sûr. Le premier exemple que j'ai donné sur le château de Prunes et le violon, il le dit. Il dit, on a l'impression qu'il y a un ordre central auquel tout est finalement relié, même si on le voit pas. Il y a le fort pressentiment de cette unité-là, Je crois d'ailleurs que le gros problème philosophique le plus intéressant de l'école de Copenhague, qui n'est, c'est pas qu'ils sont positivistes, pas du tout, c'est une école qui pense qu'ils doivent utiliser le langage, parce qu'on ne dispose que du langage, le langage pour parler de choses qui ne peuvent pas être décrites adéquatement dans le langage. Et à cet égard, Niels Bohr dit que pour lui, le travail de physicien est comme un travail de poète. C'est ce qui me paraît très très beau. Et après la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on trouve beau? Quels sont les critères de la beauté? Alors ça a un rapport sans doute avec ce côté unique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi en mathématiques, hein. C'est la concision, la simplicité, l'idée de découvrir subitement que entre deux points qui semblaient reliés par un labyrinthe interminable, on a une seule ligne droite d'une grande pureté. Et je sais qu'en mathématiques, le critère esthétique est encore extrêmement important et qu'il ne suffit pas qu'une démonstration marche, encore faut-il qu'elle soit belle.
Monsieur. Oui, c'est Monsieur Gauze. Vous avez évoqué donc la promesse de l'Occident pour les Africains, omniprésente par les paraboles. Et si on voit les choses dans l'autre sens, est-ce que vous pensez que la promesse de l'Afrique pour les Occidentaux est en développement? Ou est-ce qu'elle marque le pas en ce moment avec tout ce qui se passe? Je pense par exemple à Ebola. Et si on prend Ebola, pratiquement aucun gouvernement d'Europe ne met des moyens suffisants pour pouvoir agir là-bas. Il faut aller chercher chez les Cubains cette capacité, cet engagement, cette volonté de faire quelque chose pour Ebola. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens aussi, avec les paraboles?
Alors, je veux me permettre une petite... la promesse de l'Afrique. Non, mais ça, c'est par ça que ça a commencé. La promesse de l'Afrique, c'est pas maintenant. C'est il y a 150 ans. Il y a au moment où le gens décident d'aller coloniser l'Afrique. C'est ça la promesse. Ça fait déjà des années, la promesse de l'Afrique. C'est plus dans, en fait. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et on est toujours dedans. La France est encore, on est les seuls, en Afrique, en tout cas, on est les seuls encore à avoir une monnaie qui est franche, qui s'appelle franc, quoi. Alors que même en France, il y a plus de francs. On est les meilleurs clients de la Banque de France en matière de réserve d'or, par exemple, puisque toute la monnaie, par exemple, de toute la zone France CFA est battue à Clermont-Ferrand. Donc ici, la promesse de l'Afrique est permanente depuis 200 ans. Au nom de tout ce que tu veux, la civilisation, la recherche d'influence, de matières premières, l'industrie, tout ce que tu veux, mais oui, elle est permanente. Donc c'est pas maintenant qu'il faut en parler. Ça, enfin, c'est ça. Ce qui serait bien d'ailleurs pour l'Afrique, c'est de faire oublier cette promesse là au monde occidental, qu'il laisse un peu tout le monde en paix un peu, qu'il laisse. Moi, je veux bien qu'on laisse les gens mourir en paix. Moi, Ebola, j'ai un discours assez particulier. Si Ebola, par exemple, les peuples ont, enfin, moi, je crois profondément à la capacité des peuples à finir par se prendre en charge. Et cette espèce de condescendance permanente qui règne aujourd'hui, qui règne depuis toujours sur l'Afrique, les Africains et leur destin, au point où vous-même vous imaginez que la solution d'Ebola viendrait d'ici. Voilà, cette espèce de, il faut arrêter avec ça, en fait. Il faut passer à autre chose. Il faut rompre la promesse africaine du monde occidental, justement. Il faut rompre avec ça. Donc, voilà. Voilà. Et moi, j'aime bien l'histoire. J'aime bien ce que Ebola montre à toute la planète aujourd'hui. C'est quand même, pour moi, hein, en tout cas, qui a fait des études de biochimie, on a l'habitude des grandes et belles catastrophes en Afrique depuis quelques années. Et Ebola, c'est petit joueur, quand même, devant ce qu'on a l'habitude de vivre. En 2 mois, à Abidjan... Une transition électorale a fait 3000 morts, alors que Ebola, bon voilà, je veux pas plaisanter sur la contagion, voilà, c'est une grippe un peu dure, mais c'est une grippe, quoi. Ebola, c'est environ 50% de létalité. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas la grande menace. Et donc voilà, mais c'est le discours. Donc profondément au fond, cette rivière, la rivière la plus célèbre de toute l'Afrique, donc la rivière Ebola. Donc au fond, c'est pas si dramatique que ça, que les gens, enfin, qu'il y ait des maladies qui tuent des gens. Ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça. Ce virus-là, il est là, et les dinosaures ont probablement connu Ebola. Et tout ce que vous voulez, voilà. Donc c'est rien de bien neuf en fait. Mais par contre, c'est ce que ça dit sur cette façon de cette manière dont ça a été monté en épingle pour encore plus mettre à demeure en résidence surveillée tous les Africains dans leur continent. C'est ça le truc. C'est ça la vraie question que ça pose. Après, voilà, je veux pas que des médecins français viennent en Côte d'Ivoire s'occuper d'Ebola. Il y a les moyens d'en faire. Donc si on finit par responsabiliser les gens, ils vont prendre leur destin en main. Pourquoi on devrait attendre encore le salut de d'ailleurs quoi. Donc voilà, pour moi Ebola c'est une maladie c'est une maladie grave et tout ce que vous voulez, mais voilà, on peut se prendre en main, on peut lutter contre, et par contre, ça dit autre chose sur ce que les gens pensent de l'Afrique. Ça dit autre chose. Voilà, ça dit ce discours encore condescendant, raciste, méprisant ça perpétue l'histoire de cette promesse africaine qui a commencé avec la recherche là.
Merci.
Bonsoir. Oui, on va un peu changer de sujet. Il paraît que toute question est bonne à poser, donc j'ose poser la mienne à vous en tant que spécialiste un peu des mots, parce que parfois dans la vie on cherche nos mots, et c'est l'occasion de poser ma question, voilà. Pour moi, la promesse, ça sous-tend un certain engagement de soi, et ma question est liée au fait de, par rapport aux jeunes aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux jeunes, j'enseigne aussi, que peut-on leur promettre aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est un peu difficile de leur promettre des choses, alors je cherche des mots pour quand même leur donner espoir dans la vie de demain, et voilà. Quels seraient les mots qu'on pourrait employer au lieu de leur promettre un avenir super?
Qu'est-ce qui veut se lancer
C'est vrai, ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette course d'obstacles pour tous les jeunes gens qui est, il faudrait avoir 25 ans, avoir 10 ans d'études, 10 ans d'expérience, être déjà marié comme ça c'est fait, mais néanmoins être libre, enfin, donc il y a une... des demandes dans tous les sens. La réalité de ce problème des jeunes gens que vous évoquez ne se résout pas en termes de promesses, il se résout en termes de concret, j'allais dire. Les promesses, on les a bercées de promesses et voire de bâtons, parce que ça va, la carotte et le bâton vont en général très bien ensemble. Donc si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça, etc., etc. Donc les deux en général marchent d'amble. Mais je pense que il leur faut tout sauf des promesses.
Marie-Gilles.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de promesses, justement, et qu'on nous-mêmes, en tant que professeurs, en tant qu'intellectuels, qu'on abandonne la promesse pour, comme vous le disiez, en fait, parce que vous disiez en tant que professionnel des mots, et je trouve ça assez juste. Je pense que ce qui doit remplacer la promesse, c'est la maîtrise des mots, justement. Et je pense que ce qui manque à ces jeunes aujourd'hui, réellement, alors vous voulez dire que je prêche pour une chapelle, mais je pense que c'est réel et je l'entends partout, c'est le langage, en fait. Et que ce qu'ils doivent reconquérir ou acquérir, c'est la maîtrise des mots, justement, qui leur permettra ensuite, sans doute, ou maintenant, tout de suite même, de réaliser leurs propres rêves, en fait, leurs désirs. Parce que si l'on n'a pas le langage, et quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine que l'on désire, en fait, on n'a même plus de désir, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où on veut aller. On a besoin du langage pour tout comprendre, en fait, et pour tout exprimer. Donc voilà, donc moi, je pense qu'il faut abandonner la promesse et les utopies, et cette chose concrète que les jeunes doivent ou peuvent en tout cas désirer et acquérir pour avoir un plus grand désir du reste, et pour avoir même un désir de l'avenir, ce serait le langage, les mots.
Merci. Une autre question, intervention, madame.
Dans le dialogue entre Hannah Arendt et Heidegger, il s'agissait pour Hannah Arendt de savoir comment Heidegger a pu en arriver là où il est arrivé. Donc, à un moment donné, apparaît l'histoire où Heidegger aurait dit que son engagement dans le hitlérisme était une grosse dommage, une énorme bêtise, que c'est une perversion de la conscience pour ne pas faire face.
C'est vraiment un thème essentiel. Pour travailler sur ce roman, j'ai été beaucoup en contact avec des amis allemands, dont c'est pour lesquels c'est une interrogation constante. Hein, et je pense que j'avais eu une formulation qui était comment peut-on être aussi intelligent et aussi bête en même temps. L'aveuglement de d'une grande partie de, alors même sans adhésion, hein, je parle même sans adhésion au parti nazi, etc. Hein, l'aveuglement d'une grande partie de l'intelligentsia allemande, notamment dans le domaine scientifique, à quelque chose d'hallucinant. Mais j'ai comme l'intuition, moi, que rentre en jeu un élément que j'ai abordé tout à l'heure et qui est, alors notamment pour des gens comme Planck ou comme Heisenberg, c'est leur mépris total de la politique. Et leur impossibilité à croire que des gens qui méprisent puissent finalement avoir un pouvoir ou une importance. Je crois qu'il y a quelque chose de cette, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Et là, je parle de gens qui n'ont notoirement pas été des militants nazis jamais, hein, mais qui sont restés en Allemagne. Et donc il y a là comme une sorte d'énigme quand même.
Merci.
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis intéressée de savoir, pour chacun d'entre vous qui est écrivain, si La Promesse pour vous est un objet de fiction pour un roman, est un objet en tant que tel.
Donc je réponds. Oui, c'est ce que j'ai dit en fait, je crois. C'est-à-dire que la promesse, à mon sens, effectivement, est au fondement de toute écriture littéraire. Il faut peut-être pas prendre promesse au sens, enfin, en tout cas, entendre que le thème sera directement la promesse, que la promesse sera l'objet même du livre, se retrouvera dans le titre, etc. Mais l'écriture même est une tension vers l'avenir. Elle est devenir dans sa forme même d'écriture vers la droite, si vous voulez. Elle est un condensé de temps en fait qui emprisonne le futur, qui tend en permanence vers cet avenir. Et en ce sens, évidemment, comme en même temps elle a pour ambition d'être un plan, d'apporter même tout, c'est l'ambition de la littérature, on peut dire qu'elle est la promesse.
C'était le forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui Florence Aubenas, Jérôme Ferrari, Gauze, Véronique Ovaldé et Marie-Gilles. Débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son, Georges Thau. Réalisation, Isabelle Huel. Demain, Dieu peut-il tenir promesse ? Avec Delphine Horviller, rabbin, et Jean-Luc Marion, philosophe.